nous allons commencer immédiatement le séminaire de pensée juive. C'est un très grand plaisir et un très grand honneur pour moi de présenter ce soir le premier séminaire trimestriel des pensées juives sous la direction de M. Léon Ashkenazi Manitou, directeur fondateur du QEJ, que depuis de très nombreuses années continue à nous donner à travers ces séminaires une expression de la pensée juive comparée à différentes écoles de culture et de sciences contemporaines. Et le séminaire de ce trimestre a pour titre « La bifurcation de l'exil et Dom et Ishmael ». Il y a trois séances, dont une est consacrée au problème des mentalités, c'est celle de ce soir. La deuxième, au problème des littératures, culture et civilisation, celle de demain, conférence de M. Mendelssohn, et la séance de clôture de jeudi, celle de M. Léon Ashkenazi, sous le titre « Préfiguration des exils dans les sources midrashiques et talmudiques ». Je vous rappelle également que des cours ont lieu, un cycle de l'après-midi, un cycle du matin, dans les contenus est indiqué dans le programme « Le drame de l'exil et ses visages ». L'objectif de ce séminaire est essentiellement d'étudier et à la lumière comparée de la pensée juive et des recherches sociales contemporaines, quelle est la réalité et la fiction dans la grande dichotomie, dans la grande bifurcation qu'on a connue dans l'exil d'Israël entre la civilisation ashkénaze et la civilisation séfarade. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé de commencer ce cycle en essayant de resituer sur les plans objectifs, sur les plans sociologiques, historiques, psychologiques, sur le plan de la civilisation et des mentalités, la réalité exacte de cette bifurcation. Et pour cette raison, on a invité M. Tapia, que je vous présenterai tout à l'heure, pour nous en parler de ce sujet. À l'introduction, nous entendrons une communication préliminaire de M. Richard Ayoun, qui est professeur au QEJ, chargé des conférences à l'Institut national de langues et civilisations orientales, sur le thème « Les origines historiques de la distinction ashkénaze-séfarade ». Cette communication préliminaire permettra de brosser un tableau sur la réalité historique, le moment historique de la naissance de cette différenciation.
Donc, je vais parler des distinctions entre séfarades et ashkénazes. Parmi les juifs d'aujourd'hui, on distingue deux grands groupes, les ashkénazes et les séfarades. Les plus nombreux sont les ashkénazes, ils forment environ 80 à 80% des juifs actuels, c'est-à-dire entre 11 et 13 millions et demi, sur les 14 à 16 millions de juifs dans le monde actuel. Les séfarades sont les plus nombreux, ils représentent 15 à 20% des juifs actuels, soit 2 millions et demi à 3 millions de juifs. Les séfarades sont majoritaires en Israël et ils sont majoritaires en France. Rappelons que la communauté française est la troisième communauté de la diaspora, après celle des États-Unis et après celle de l'Union soviétique. La distinction entre séfarades et ashkénazes est une distinction médiévale. Cette distinction est réelle tant pour les juifs méridionaux que pour les juifs septentrionaux. Cette distinction se concrétise dès le XIe siècle, lorsque les ashkénazes sont les seuls à accepter les takanot, c'est-à-dire les règlements de Rabbeinu Gershom, surnommé Meor Hagola, qui signifie la lumière de l'exil. Notamment, ces règlements institue le règlement de la monogamie. Les juifs séfarades tirent leur nom du pays où quelques-uns de leurs ancêtres ont vécu au Moyen-Âge, c'est-à-dire l'Espagne. Il faut dire que les ancêtres de certains juifs dits séfarades, comme les juifs d'Irak, les juifs du Yémen, les juifs de l'Inde ou les juifs de Chine, ont peu de chances pour qu'ils aient des ascendants qui ont vécu en Espagne. Le terme hébreu séfarade désigne traditionnellement l'Espagne. Ce terme séfarade se rencontre pour la première fois dans la Bible, c'est dans Obadia, au chapitre 1, verset 20. Alors je cite ce verset. « Et les exilés de cette légion d'enfants d'Israël, répandus depuis Canaan jusqu'à Sarfat, et les exilés de Jérusalem, répandus dans Séfarade, posséderont les villes du Midi. Sur ce verset, Rachi écrit, je cite Rachi, « Il s'agit de l'exil des Israélites des 10 tribus perdues au pays des Cananéens jusqu'en Serfat et des Judéens exilés en Séfarade. » Et les traducteurs disent que Serfat est le royaume qu'on appelle France en langue vulgaire, Séfarade, Jonathan Ben-Uziel traduisait Hispania. Il est à préciser, pour comprendre un peu ce commentaire, que pour les Juifs du Moyen-Âge, Canaan était la Russie. C'est ainsi qu'on croyait que les Ashkénazes étaient issus d'une part des anciens habitants du royaume d'Israël, ce royaume d'Israël qui a été détruit en moins 722 par Salmanazar V d'Assyrie. D'autre part, on pensait que les Séfarades descendaient du royaume de Juda, ce royaume que Nabucodonosor a fait disparaître en moins 586. La tradition séfarade hésite entre cette division et une version plus sophistiquée pour laquelle tous les Juifs proviendraient du royaume de Juda. Ces seuls Juifs appartiendraient à la tribu royale de Juda et les Ashkénazes, selon cette tradition, descendraient de la tribu de Benjamin. Selon une étude, l'étude d'une dénommée Groen, ce personnage qui a travaillé sur les maladies héréditaires des Séfarades et des Ashkénazes, cet auteur prétend abattre scientifiquement cette tradition. Pour Groen, les Séfarades seraient le fruit du mélange génétique des 10 tribus du royaume d'Israël. Quant aux Ashkénazes, selon Groen, ils seraient les vrais héréditaires du royaume de Juda. Les historiens, qui n'ont pas été satisfaits de ces explications, ont envisagé deux hypothèses. La première de ces hypothèses est la suivante. Les Juifs de l'Afrique du Nord et de l'Espagne, et d'une manière générale les Séfarades, seraient originaires de la Palestine méridionale. Ils auraient de plus absorbé des populations converties au judaïsme. En ce qui concerne la deuxième hypothèse, les Séfarades se rattacheraient au grand foyer babylonien, ce grand foyer du premier millénaire. Et, toujours selon cette première hypothèse, les Ashkénazes proviendraient du foyer palestinien. Selon la deuxième hypothèse, cette deuxième hypothèse qui a été longtemps mise en avant et qui a été reconnue grâce à l'importance des influences babyloniennes sur la vie intellectuelle du judaïsme espagnol médiéval, et cette hypothèse est actuellement contestée. En ce qui concerne les recherches qui ont été faites sur l'histoire de la prononciation de l'hébreu, ces recherches interviennent aussi dans les distinctions entre séfarade et ashkénaze. Ces recherches montrent l'origine palestinienne de la prononciation séfarade. De plus, les historiens montrent les contacts qui ont existé dans le haut Moyen-Âge de la part des Juifs d'Afrique du Nord, les Juifs d'Afrique du Nord et d'Espagne, avec les Juifs de la Terre Sainte. Donc, la séparation entre séfarade et ashkénaze par la coupure antique Israël-Juda ou par la rivalité classique Terre Sainte-Babylone, ne paraît pas correspondre à la réalité. Est-ce une tradition ou un mythe? La vision médiévale juive, sans être une explication scientifique, reste un fait de mentalité. Ce fait de mentalité est entretenu par une transmission orale et cette transmission orale a été véhiculée par l'exégèse rabbinique. Après avoir parlé des séfarades, nous allons maintenant très rapidement parler des Ashkénazes. Le terme Ashkénaze paraît dans la Bible, dans la Genèse, au verset 3 du chapitre 10. Ce nom s'identifie à l'Allemagne depuis le Xe siècle. Au Moyen-Âge, les Juifs allemands et français forment un groupe de cultures et aussi ils forment un groupe de coutumes semblables. Jusqu'en 1306, c'est-à-dire jusqu'à l'expulsion des Juifs de France, la France est le centre des Ashkénazes. Du XIVe siècle jusqu'au milieu du XVIe siècle, l'Allemagne devient à ce moment-là le centre des Ashkénazes. À partir du XVIe siècle, le centre des Ashkénazes se déplace en Europe de l'Est. C'est au XVIe siècle que vraiment la distinction entre séfarade et ashkénaze est une distinction concrète. Les Ashkénazes utilisent le moussar ashkénaze, c'est-à-dire le système de prière adopté par les Juifs franco-allemands, les Juifs de l'époque médiévale. Ils incluent certaines variations décrites comme appartement à ce qu'on appelle la coutume polonaise, c'est-à-dire le minag polonais. Au XVIIIe siècle, le mouvement chassidique adopte le système de prière séfarade. C'est pour cette raison que les chassidiques ont souvent été qualifiés à plusieurs occasions de séfarades. En Europe de l'Est, les Ashkénazes ont développé une vie religieuse intense, ils ont éparpillé l'érudition talmudique au sein de la communauté, à un degré qui n'aurait jamais été dépassé auparavant l'histoire juive. À noter que ce haut degré d'instruction juive existe dans un environnement illettré non juif. Malgré les massacres cosaques, les massacres de 1648-1649, où nous savons que plusieurs centaines de milliers de juifs, dont plusieurs parties de l'Europe de l'Est, ces juifs de l'Europe de l'Est qui ont vécu une vie juive vibrante et bigarrée, on peut le dire, à travers les générations. Cette vie juive, elle s'est épanouie en Pologne, elle s'est épanouie en Lituanie, en Hongrie, en Roumanie, en Ukraine et en Russie. La plupart de ces juifs ashkénazes parlaient le yiddish, c'est-à-dire le judéo-allemand. Avant 1933, les juifs ashkénazes représentaient 90% des juifs dans le monde. Quant aux séfarades et ce qu'on appelle aussi les juifs orientaux, ils ont parlé pour certains le judéo-espagnol ou pour d'autres le judéo-arabe. Et là, je vais conclure en parlant d'une distinction. Je vais parler de la distinction en ce qui concerne la prière du Kol Nidré. Le Kol Nidré est une formule araméenne, formule qui est vieille de plus de 1000 ans, pour répondre des vœux. Cette prière est récitée, comme vous le savez, la veille du Yom Kippour. Au début du XVIe siècle, un chazan d'Allemagne a composé la mélodie émouvante du Kol Nidré. Cette mélodie qui exprime la peur, elle est également un plaidoyer passionné pour l'espoir de la délivrance ultime. Cette mélodie qui a été adoptée par tous les Ashkénazes n'est pas utilisée par les juifs séfarades ni par les juifs orientaux. Pour les juifs séfarades et les juifs orientaux, ils récitent le Kol Nidré comme une prière.
Merci beaucoup. Maintenant que nous pouvons entrer après cette communication préliminaire de M. Richard Ayoun, qui a montré à la fois les différences liturgiques et linguistiques et culturelles entre les deux grands ensembles de civilisations juives, nous entrerons dans le problème fondamental qui nous occupe aujourd'hui, le problème de la distinction des mentalités, dans une conférence de M. Claude Tapia, qui est professeur de psychologie sociale à l'Université de Tours. Il est l'auteur d'un ouvrage intitulé « Les Juifs séfarades en France » paru aux éditions Harmattan. Le thème de la communication de M. Tapia s'intitule « Mentalité ashkénaze, mentalité séfarade, mythe ou réalité, le point de vue de la psychologie sociale contemporaine ».
Enfin, c'est ce que vous m'avez demandé de faire, hein, c'est ça. Je voudrais, puisqu'on m'a demandé de parler dans une optique qui n'est ni une optique idéologique, ni une optique militante, ni une optique théologique, parce qu'il y a d'autres qui sont plus spécialisés que moi sur ce terrain, ni une optique philosophique. Je vais essayer de parler du point de vue des sciences humaines. Et c'est-à-dire que je voudrais quitter les spéculations métaphysiques et me placer sur le plan des faits, sur le plan des relations entre les faits et sur le plan des modèles explicatifs de ce qui a rapport, si vous voulez, avec ce problème Ashkenaz-Séfarad. Comment, on me demande donc de définir une perspective qui est psychosociologique. Bon, je voudrais dire en quoi ça consiste, pour ceux qui ne connaissent pas directement, peut-être. Qu'est-ce que c'est qu'une optique psychosociologique? Je voudrais d'abord dire ce qu'elle n'est pas, et puis j'expliquer ce qu'elle est. Alors, ce qu'elle n'est pas, c'est d'abord le contraire d'une perspective déterministe. Qu'est-ce que c'est qu'une perspective déterministe? Peut-être qu'on pourrait poser des questions après, je vais être simple, mais si jamais c'était nécessaire, peut-être même interrompre, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un schéma déterministe? Ça veut dire qu'on attribue à des comportements, des faits, des situations à une cause. Et on essaye d'expliquer que, en raison de telle ou telle situation, de telle ou telle cause, eh bien, il y a tel ou tel comportement. Les choses ne se passent pas, évidemment, comme ça. Bon, donc, si vous voulez, je réfute, donc, cette perspective-là, déterministe. Je réfute aussi le schéma finaliste. Qu'est-ce que c'est que le schéma finaliste? C'est celui selon lequel l'histoire a un sens, selon lequel on va dans une direction, la société va dans une certaine direction. C'est la perspective selon laquelle tout ensemble social, tout système social est un peu téléguidé. Soit téléguidé de l'extérieur, soit par une force transcendante, soit par des forces profondes de l'instinct ou de l'inconscient. Ça, on refuse ça, hein, dans la psychosociologie. Je ne dis pas que j'ai raison, Je dis sur quel registre je me place, hein ? Bien entendu. Le troisième chose que l'on refuse, c'est ce qu'on peut appeler le psychologisme naïf. Celui selon lequel les individus seraient pure liberté ou pure autonomie. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent choisir ceci ou cela. Et selon lequel les gens sont tellement différents, les groupes sont tellement différents qu'on ne peut pas établir de loi, qu'on ne peut pas établir de régularité, que par conséquent il n'y a pas de science dans ce domaine. Donc je me tiendrai en marge de ces perspectives-là. Je refuserai aussi le mentalisme, une autre perspective qui est assez connue dans les sciences humaines, qui consiste à attribuer à que ce soit psychanalytique ou structuraliste, ça consiste, si vous voulez, à faire dépendre de certains états mentaux les comportements des gens, lesquels se reproduisent et s'autogénèrent et donc déterminent les comportements. Alors c'est donc par rapport à cela que je voudrais définir ce que c'est qu'une perspective aujourd'hui, scientifique, dans le domaine des sciences humaines, évidemment. Alors qu'est-ce que c'est? Si ce n'est pas tout ce que je viens de dire, qu'est-ce que c'est? Alors premièrement, il y a 4 ou 5 caractéristiques sur lesquelles, si vous voulez, on pourrait discuter après. La première caractéristique d'une perspective psychosociologique, c'est qu'elle est interactionniste. C'est-à-dire que quand il y a des comportements, quand il y a des situations, on ne peut jamais attribuer un facteur unique, ces comportements ou ces situations. On ne peut pas dire c'est ça qui a causé ça, ou s'il y a des séfarades, des ashkénazes, c'est parce qu'il y a eu telle à l'origine, telle ou telle cause. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les schémas sont toujours complexes, ça veut dire que ça interréagit, et qu'il y a plusieurs variables qui interréagissent pour définir une situation. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire aussi qu'on est probabiliste. Probabiliste, c'est-à-dire qu'on n'est pas très sûr de ce qu'on peut attribuer à tel facteur ou à tel autre facteur. Donc, on introduit de la complexité dans les schémas ou philosophiques ou sociologiques qui sont trop simplistes. Hein, c'est ça que je veux dire. Deuxième chose, la psychosociologie est dynamiste. Aujourd'hui, je dis sur quoi il y a consensus aujourd'hui. Je crois que tous ceux qui sont chercheurs dans ce domaine sont d'accord sur ces points que je viens d'indiquer. Dynamisme, ça veut dire qu'il n'y a pas de réalité figée dès l'origine, comme certains veulent le laisser croire. Il n'y a pas de réalité figée, il y a des choses qui bougent, il n'y a rien de cristallisé, il n'y a rien de stabilisé. Tout est pénétré, toute situation sociale et toute réalité sociale est effervescente, c'est-à-dire qu'elle est pénétrée de l'extérieur par des forces qui la transforment. Voilà. La troisième caractéristique importante, c'est la caractéristique que nous appelons, nous, dans notre jargon cognitiviste, c'est-à-dire que quand un sujet est en face d'une situation donnée, ce qui détermine sa réponse, sa réaction à lui, ce n'est pas la situation directement, c'est la représentation qu'il se fait de cette situation. Cognitif, c'est-à-dire qu'on rejette les schémas mécanistes, ceux selon lesquels on dit il y a stimuli ici, il y a des stimuli ici, et moi je me comporte en fonction de ça, ça c'est faux. Ça veut dire que nous avons une conscience, nous avons une mémoire, ça veut dire que nous avons des représentations, des mécanismes cognitifs qui font qu'on se comporte par rapport à cela, et pas par rapport à ce qui est aux sources de pression qui viennent de l'extérieur. Ça veut dire que pour parler en termes d'identité, puisqu'on va parler tout à l'heure de mentalité ou d'identité, ça veut dire qu'une identité ne se détermine pas seulement en raison d'une volonté d'être d'un groupe, par exemple, mais en fonction de l'image qu'il a de lui-même, et en fonction de l'image qu'il a, de l'image que les autres ont de lui. Donc les choses sont très complexes, ça que je veux dire. Alors, donc, avant d'aborder, d'aller au... Je suis bien compris ou c'est abstrait? Avant d'en arriver au problème, donc, Ashkenaz Sepharad, je voudrais parler maintenant du terme de concept de mentalité. Je crois que le concept de mentalité, par rapport à des concepts plus flous, comme caractère national, parce qu'il y a eu des essais, enfin depuis des années, depuis le début du siècle, on a essayé de dire qu'est-ce que c'est, est-ce qu'il y a un caractère national, surtout après la guerre d'ailleurs, est-ce qu'il y a un caractère national allemand, un caractère national français, est-ce qu'il y a... Bon, tous ces concepts sont, ou d'esprit du peuple, ou même d'inconscient collectif, encore que le concept d'inconscient collectif pose d'autres problèmes, tout ça, ce sont des concepts flous. Par contre, le concept de mentalité est un concept qui a un statut, qui a une place dans les sciences humaines. Et dans les conceptualisations, c'est-à-dire que c'est un concept qui existe et qui représente des choses sur lesquelles tout le monde est d'accord que ça représente ça. C'est ça ce qu'on appelle un concept. Alors si vous voulez, il a une histoire, et en sociologie, je voudrais dire 3 choses, si vous voulez, à propos du concept de mentalité. La première chose, c'est les sociologues et les anthropologues qui ont utilisé ce concept, surtout pour caractériser deux types de sociétés, ce qu'on a appelé les sociétés en voie de développement et ce qu'on a appelé les sociétés industrielles, en attribuant aux unes une mentalité dite primitive, archaïque. C'est la société selon laquelle le mythe remplace l'histoire et selon laquelle les symboles sont plus importants que l'action. Et une mentalité dite positiviste ou utilitariste, celle de nos sociétés développées, selon laquelle il y a une histoire et où il y a un primat de la raison et de la rationalité sur le mythe. Et puis, les sociologues ont travaillé un petit peu plus et ils ont désigné ils ont opposé également deux mentalités. La mentalité qu'on dit traditionnelle, celle où le recours à l'autorité, où le recours à certaines valeurs anciennes, le refus du changement, caractérise une façon de faire, une façon d'agir, une façon de penser. Et celle, et ce qu'on peut appeler une mentalité moderniste, celle selon laquelle on perçoit le changement et qu'on ne se réfère pas à la tradition pour se comporter. Bon. Alors tout ça, si vous voulez, c'est un peu l'histoire du concept. Moi j'en viens à la définition psychosociologique, c'est la définition que je voudrais la plus générale, celle sur laquelle nous allons nous appuyer pour parler des Ashkénazes et des Séfarades. C'est donc une façon d'agir, de penser, de sentir, de réagir, qui est propre à des groupes, propre à un groupe, propre à une expérience historique d'un groupe. Alors, par rapport à ce qu'on peut appeler le phénomène de mode, ou par rapport à ce qu'on peut appeler l'idéologie, la mentalité, c'est quelque chose de plus profond. On suppose que c'est quelque chose d'assez profond enfoui dans le psychisme collectif, qui fait que des gens, sans le savoir, se comportent d'une certaine manière, de façon commune, quand ils appartiennent à une même expérience, à un même groupe, qui a la même expérience historique. La mode, c'est quelque chose de plus évanescent, de plus superficiel. On peut se comporter d'une certaine manière, dans tel ou tel domaine, par contamination, par imitation. L'idéologie, ce sont des systèmes d'opinion et de représentation très systématisés qui donnent à voir le monde d'une certaine façon et d'une façon intéressée, puisque tout groupe élabore une idéologie, une façon de penser qui sert à renforcer la cohésion des groupes. Les mentalités, c'est quelque chose de plus profond, de moins maîtrisable et quelque chose qui vient des profondeurs des groupes. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on va essayer peut-être de travailler et de réfléchir sur les problèmes de Ashkenaz et Farad. Alors, nous en arrivons à ce problème. Donc, qu'est-ce que c'est, ça ? D'où ça vient, à quoi ça sert, en fait, et quelle est la signification de cette dichotomie Ashkenaz-Séfarad. Je voudrais dire que si je laisse de côté ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire si on laisse de côté la perspective philosophique ou théologique, perspective philosophique ou théologique qui peut prendre... Si on laisse de côté, je disais, la perspective théologique ou philosophique, qui peut prendre d'ailleurs trois aspects. Le premier aspect, c'est celui qui figure sur le document que vous avez, sur la brochure, à savoir qu'il y a deux catégories qui sont des principes opposés, qui sont constitutifs de la dynamique d'expression de la culture juive ou de la pensée juive, deux catégories philosophiques, si vous voulez. Si on laisse de côté l'interprétation selon laquelle les deux branches du judaïsme sont nécessaires à la survie du peuple juif. J'ai été une fois, je parlais à M. Levinas, Emmanuel Levinas, qui me disait, mais au fond, au moment où j'ai écrit le livre sur les Juifs séfarades en France, je lui disais, au fond, mon livre a quelque chose de trop sociologique, qu'est-ce qui serait intéressant à ajouter ? Je lui dis, moi je pense à une chose, c'est qu'au fond, il s'est écrit quelque part, je ne sais pas dans quel endroit de la Bible, vous allez peut-être me dire, monsieur, ce qu'elle a dit, il est écrit que toujours une partie du peuple juif sera sauvée par l'autre. Alors vous pouvez écrire ça, si vous voulez mettre un peu de spiritualité dans votre analyse. Alors bon, c'est une façon de voir, à savoir que donc...
Vous allez apprendre la chose, vous allez lire chaque.
Ah bon, très bien. C'est donc là, chacune est destinée donc à sauver de l'enlisement, de la stagnation, de la destruction, bon, et les deux se relaient pour assurer cette survie. Bon. Et puis il y a une troisième expression de cette approche, c'est celle selon laquelle ce n'est pas intéressant. Ceux qui disent, je les entends enfin encore quelques années, ceux qui disent c'est pas intéressant, c'est tout à fait transitoire, c'est tout à fait circonstanciel, et ils le disent en survalorisant quelques traits qu'on peut supposer constitutif de l'identité juive, à savoir l'expérience de l'exil, l'expérience de l'errance et l'expérience de la libération dans le désert. La marche dans le désert vers la libération, certains pourraient ajouter le maranisme, enfin voilà, en disant que tout s'est joué avant et que ça n'a pas d'intérêt, que c'est tout à fait transitoire. Je rejette ces perspectives parce qu'elles sont philosophiques et elles ne sont pas appuyées sur des faits, donc je les considère provisoirement comme pas sérieuses, de mon point de vue. Enfin, alors, qu'est-ce qui reste? Il reste deux choses. Il reste d'essayer d'expliquer déjà la genèse. La genèse de cette bifurcation. Alors, mon ami Ayou en a parlé. Moi, je me réfère à une première hypothèse qui est celle de M. Ashkenazi. Je la cite d'ailleurs dans mon introduction dans le livre, qui se réfère donc à l'exil. Mais je n'ai pas eu la même interprétation que tu as faite. Je pense que M. Ashkenazi expliquait qu'il y avait une double exil, donc, et il y avait le premier exil, et puis à Babylone, et puis il y a eu le retour, hein, le deuxième royaume de Judée, et une reconstruction du temple, et il y a des gens qui seraient restés à Babylone. Et que des gens et d'autres, la partie la plus importante du peuple juif est revenue, a fondé donc le deuxième royaume de Judée avant le deuxième exil. Et je crois qu'il expliquait quelque part que les Ashkénazes seraient les descendants, les héritiers de la tradition liturgique, linguistique de ceux qui sont restés à Babylone, et que les Séfarades seraient les descendants de la deuxième dispersion. Je crois que vous n'avez pas dit exactement.
Israël.
Ah, d'accord. Ah, d'accord, excusez-moi. Bon, alors voilà, c'est une première explication. Elle est intéressante, elle est très attrayante, mais c'est une hypothèse, elle est invérifiable. elle est descriptive, elle n'explique pas non plus pourquoi la dispersion s'est faite après dans tel secteur géographique et dans tel autre secteur géographique. C'est une hypothèse d'école.
J'y reviendrai après.
Oui, je vais continuer. Il y aurait une deuxième hypothèse, que je ne retiens pas non plus, mais je la dis quand même. Hein, c'est ça l'honnêteté intellectuelle. Alors donc, il y aurait une deuxième hypothèse, celle qui situerait l'origine de la bifurcation au Moyen-Âge ou dans les 15e, 16e, 17e siècle. C'est-à-dire au moment du redéploiement séfarade dans le bassin méditerranéen et en Europe. C'est-à-dire au moment où le mot séfarade est apparu, évidemment, et au moment où il y a eu de nouvelles migrations. Une nouvelle migration des populations juives importantes, hispaniques, sur le pourtour méditerranéen, mais aussi en Angleterre, en Hollande, mais aussi dans des endroits, où il y avait avant les autres. Et ça est intéressant parce que si vous voulez, premièrement, ces communautés, moi je connais trois cas de figure, ces communautés, cette immigration séfarade hispanique a été absorbée par les communautés locales. Il y a un deuxième cas de figure, selon laquelle elles ont absorbé, elles ont dynamisé et dynamité les communautés orientales, et celle selon laquelle elles ont coexisté. Dans les pays d'Europe, c'est-à-dire je pense notamment encore une fois à l'Angleterre et à la Hollande et à Amsterdam, il y a eu coexistence, si vous voulez. Mais s'il y a eu coexistence, il y a eu donc une prise de contact, et un contact entre les deux. Un contact entre les deux, et ce contact est à l'origine, à mon avis, mais c'est une explication psychosociologique, à mon avis, est à l'origine d'une sorte de représentation nouvelle, bipolaire du peuple juif, qui n'existait pas avant. Il y a naissance et genèse d'une représentation du peuple juif, non pas comme unitaire, mais comme bipolaire. Donc comme divisée. Et dont une branche se réclamerait de la symbiose judéo-hispano-arabo-hispanique, et l'autre d'une certaine familiarité avec le monde chrétien. Donc, je vais dire pourquoi je la réfute, elle est intéressante. Enfin, c'est en plus juste. Mais, si vous voulez, à mon sens, ça correspond à un constat. Bon, il y a deux diasporas juives qui sont dans des univers de civilisation différents et qui, du fait de l'étanchéité relative du monde arabe, du monde islamo-musulman et du arabo-musulman et du monde chrétien, eh bien, ils sont restés un peu étanches et, si vous voulez, bon, il y a deux diasporas. Mais il n'y a pas véritablement choc de culture. Il n'y a pas d'appréciation réelle des différences à cette époque-là. Sinon, une hiérarchie selon le niveau de prospérité socio-économique, on sait que les populations, les communautés séfarades ont été, dans cette période-là, 17e, 18e siècle, plus fortunées que les populations ashkénazes. Mais ça, ce n'est rien. Et je dis qu'il n'y a pas d'opérationnalité de ces concepts à cette époque. Le clivage ashkénaz-séfarade avait quelque chose, pour la masse des gens, avait quelque chose de flou, d'abstrait, d'anecdotique. Ils ne sont pas opérationnels. Ces concepts ne sont pas opérationnels. Ça veut dire qu'elles ne servent pas au débat politique. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'en servir à des fins politiques, ni à des fins de cohésion de communautaire, ni à des fins de débat intellectuel. Donc c'est pas opérationnel. Et pour nous, ce qui n'est pas opérationnel ne sert pas. Il a une valeur philosophique, mais il ne sert pas à analyser les faits. C'est ça que je veux dire. Alors il y a deux questions qui se posent. Deux questions qui se posent, auxquelles je vais essayer de répondre. La première question, c'est alors à partir de quand ces concepts Ashkenaz-Séfarad deviennent opérationnels? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un contenu psychologique et culturel derrière ces deux concepts? Et auquel cas, il faut étudier le contenu culturel de ces deux choses. Alors, première question d'abord. Et bon, il y aura une troisième question. Jusqu'à quand, s'ils sont opérationnels au XXe siècle, comme je le pense, jusqu'à quand ils vont l'être? Est-ce qu'ils vont être dépassés ou est-ce qu'ils vont rester opérationnels et importants? Voilà mes trois questions auxquelles je vais essayer de répondre. La première question, à partir de quand ils deviennent opérationnels? J'affirme qu'ils deviennent opérationnels au milieu du XXe siècle, pas avant. C'est-à-dire, quand trois faits se produisent, qui sont d'une nature, qui sont exceptionnels. Le premier fait, c'est la renaissance de l'État d'Israël et la décolonisation. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que se rencontrent massivement les deux branches, les deux populations. Ça n'a pas existé avant. C'est quand les deux se rencontrent dans deux endroits particuliers que sont Israël et la France, après la décolonisation, que se produit cette fois un choc brutal et que chacune des populations, chacune des communautés est obligée de se définir. Chacune est obligée de se définir par rapport à l'autre. Et donc d'adopter une attitude fractionnelle, non pas unitaire, mais fractionnelle, c'est-à-dire niant l'homogénéité du peuple juif. En Israël, l'affrontement, comme vous le savez, a pris un caractère ethnico-culturel, donc aigu, pour des raisons tout à fait simples, en raison de la superposition des handicaps de l'une des populations par rapport à l'autre. Quant à la France, elle a bénéficié d'une situation exceptionnelle, c'est-à-dire une émigration massive qui a rendu à peu près équivalente démographiquement les deux populations, avec la présence d'une élite intellectuelle, ou si on peut appeler ça comme ça, je ne sais pas pour le mot élite, mais enfin pour une population qui avait un niveau d'instruction qui a permis de prendre en charge en partie les problèmes qui se posaient à ce moment-là et de discuter d'égal à égal avec la population autochtone. Bon, voilà mon sentiment. Donc à ce moment-là, les concepts deviennent opérationnels. Ashkenaz et Séfarad définissent le même et l'autre et ils permettent que s'ouvre un débat idéologique sur le clivage du judaïsme et sur ses significations. Deuxième événement important, au moment où s'opère cette rencontre, au moment où s'opère cette confrontation, le monde séfardo oriental prend conscience d'une signification tout à fait nouvelle dans son histoire. C'est la première fois qu'il est coupé complètement de ses sources, qu'il est coupé complètement de la terre d'islam. Non pas de l'islam comme culture ou comme religion, mais comme paysage, comme société. C'est la première fois. Et précisément, en même temps qu'il prend conscience de cette rupture, il fait son retour dans l'histoire. Il fait son retour dans l'histoire comme acteur, cette fois sociale. Et pas seulement à travers le vecteur israélien, mais comme force culturelle et donc comme force idéologique dans nos sociétés d'Occident. Bon, pourquoi comme force idéologique et quelles sont ces forces idéologiques? Je dis très vite, je reviendrai si c'était nécessaire. Je pense que, par exemple, je vais citer trois faits. Par exemple, par identification très forte au séfardisme israélien jugé à tort ou à raison comme dominé, par identification en certaines circonstances au militantisme juif tout court, ou bien en s'autonomisant et en développant des activités culturelles, associatives et en servant de support à des communautés francophones un peu perdues dans le monde, et notamment le Québec. Bon. Voilà donc, si vous voulez, à mon avis, une deuxième raison pour laquelle ces concepts deviennent opérationnels. Ils désignent, à mon avis, on peut me contester, ils désignent, à mon avis, un désir inconscient d'hégémonie morale et mentale et deux formes de conscience juive désormais. Deux formes de conscience juive, l'une marquée par l'amputation d'une dimension fondamentale et nécessaire à l'universalisme juif pour rester fidèle à ses origines, et l'autre marquée par l'incommensurable douleur du génocide et par la lancinante interrogation sur sa signification. L'ouverture est faite, les deux concepts sont bien opérationnels. Deuxième question. J'ai répondu donc à la première question. La deuxième question. Est-ce qu'il y a un contenu psychologique et culturel derrière ces catégories? Je crois qu'il faut évidemment écarter ce que j'ai appelé tout à l'heure les deux mentalités et l'opposition factice et sans intérêt pour notre propos de la mentalité traditionnelle et de la mentalité moderne, attribuant à l'une des populations une mentalité et à l'autre une mentalité. En général, on a tendance à considérer que les populations séfarades sont un peu plus traditionnalistes que les autres, ça n'a pas d'intérêt. La question est de savoir qu'est-ce qu'il y a en dessous réellement et quelles sont les composantes. Il y a trois façons. Il y a eu trois depuis quelques années, depuis une vingtaine d'années. Je parle des sciences humaines. On a essayé de réfléchir sur ce problème et d'enquêter. Et il y a eu trois démarches. Il y a eu trois démarches. La première démarche, c'est la démarche de l'enquête. On a interrogé des gens. On a interrogé des populations ashkénazes, séfarades, et on a essayé de voir, à l'aide de questionnaires, à l'aide d'échelles, on a essayé de voir s'ils avaient des façons différentes de se comporter par rapport à la politique, à la religion, etc. On a essayé de voir. Et si on trouve des différences, on dit voilà, il y a des différences, donc on va attribuer ces différences à l'appartenance des gens. Hein, si on interroge 100 Ayoun et 100 Roski, on dit lui est ashkénaze et lui est séfarade. On dit s'il y a des différences dans ce qu'il dit, c'est 100, 100 et 100. S'il y a des différences sur différents domaines, ça veut dire qu'il vient de l'appartenance ashkénaze ou séfarade. Or, c'est pas sûr, ça. C'est pas très scientifique. Parce que rien ne dit que les différences de comportement à l'égard d'un certain nombre de domaines viennent bien de cette appartenance-là, étant entendu que plusieurs variables jouent en même temps pour définir les comportements. Donc, c'est pas une démarche qui est très sûre. Il y a une autre démarche. La deuxième démarche, c'est celle qui a consisté à dire, eh bien, on va adopter un statut d'extériorité, d'observation. On va dire, quels sont les événements marquants dans l'histoire des deux populations, et on va voir aujourd'hui si on retrouve des traces qui renverraient à ces aspects historiques dans l'une et l'autre, chez l'une et l'autre communauté. Par exemple, le séfardisme a fait l'expérience du maranisme. Est-ce qu'on trouve aujourd'hui, plus chez les séfarades que chez les ashkénazes, des comportements de type néo-maran? Je dis n'importe quoi, hein, c'est un exemple. Hein. Bon, c'est pas une démarche non plus très sûre, parce que les projections et l'invasion idéologique est facile. On peut attribuer n'importe quoi à n'importe qui. Et ceux qui se sont essayés à le faire n'ont fait qu'œuvre idéologique et pas œuvre scientifique. Alors il ne reste plus qu'une démarche. Il ne reste plus qu'une démarche, c'est celle de se demander si les deux populations, si les deux communautés sont bien conscientes, oui ou non, enfin il s'agit de vérifier ça, sont conscientes ou non qu'il existe des différences. Et si elles existent, qu'ils le disent. Laquelle? Quelle est cette différence? Vous voyez ce que je veux dire? C'est de demander aux uns et aux autres, est-ce qu'il y a, c'est de vérifier par des méthodes appropriées, si les gens sont conscients qu'ils sont différents. S'ils sont des séfarades, ils sont différents des ashkénazes, et s'ils sont ashkénazes, ils sont différents des séfarades. Or, si vous voulez, le schéma serait celui-là. S'il y a conscience de différence, il y a donc conscience d'appartenance. S'il y a conscience d'appartenance, il y a bien derrière des mentalités différentes. Je crois que toutes les enquêtes qui ont été faites ont montré qu'il y avait conscience de cette différence. Bien beaucoup plus en Israël qu'en France. Nous disposons d'un certain nombre de résultats d'enquêtes. Ça ne veut pas dire qu'elles soient sûres. Mais c'est mieux que rien. Et on sait que ça existe. On sait que cette conscience va jusqu'à une certaine étanchéité. Bon, l'étude de Ben Simon et La Pergola ont montré que jusqu'en 1980, en France, il n'y avait que 10% de mariages, intercommunautaires. Je ne vais pas dire mixte, parce que ça va penser à autre chose. Intercommunautaires, 10%. On sait qu'en Israël, pour parler d'une étude qui va être publiée dans un livre qu'on a regroupé, on a regroupé un certain nombre d'articles, Jean-Claude Lasserie hein, au Canada et moi-même, une enquête en Israël qui a montré que la très nette différence, non seulement une vision très dichotomisée de la société israélienne, très, très divisée de la société israélienne, mais encore qu'une très grande différence dans le processus d'identification à la société. C'est-à-dire que les séfarades ont une conscience communautaire très forte, plus forte que la conscience nationale. Et c'est une tendance. Et chez les ashkénazes, il y a plutôt un effacement de l'appartenance communautaire au profit d'une conscience nationale. Bon, ça convient tout de même qu'il y a des différences et que ces différences correspondent à des mentalités. Alors maintenant, si vous voulez, je vais essayer d'aller vite pour la dernière partie. Si on devait caractériser deux mentalités, si je prends ce que j'ai fait, si vous voulez, pour vous aujourd'hui, c'est-à-dire, si maintenant je prends en compte L'ensemble. Je prends en compte l'ensemble des études qui ont été faites, ma connaissance, certaines des études que j'ai faites moi-même, ma connaissance générale du problème. Qu'est-ce qui resterait d'important à souligner? Quels sont les 4 ou 5 points qui seraient de nature à caractériser une mentalité et l'autre mentalité? J'ai trouvé 5 points ou 6 points importants. Et peut-être c'est sur ça qu'un débat pourrait, si vous le voulez, pourrait s'ouvrir. Un premier point, c'est d'abord une mémoire du passé et une expérience historique qui sont vraiment contrastées. Il est clair, si vous voulez, quand on parle aux gens, qu'il y a d'un côté une centralité majeure de la Shoah et un effacement des allégeances au terroir d'origine, d'un côté. Et de l'autre, une prégnance, une force très grande du sentiment de déracinement culturel et géographique par rapport au milieu générateur, par rapport au milieu générateur des traditions les plus essentielles. Centralité de la Shoah pour le monde ashkénaze et allégeance.
C'est pas évident.
C'était pas évident, oui, d'accord. Et puis, un sentiment très fort de déracinement culturel et géographique chez les séfarades. Ce qui veut dire, si vous voulez, que chez le vécu des gens de par exemple, de ma génération, cette différence se traduit ou s'accompagne d'attitudes plutôt sceptiques, plutôt pessimistes, plutôt désenchantées quant à l'avenir, chez l'une des populations, je précise, ashkénazes, plus ambivalente, c'est-à-dire une sorte d'oscillation entre l'optimisme et le pessimisme chez les autres. Dans le domaine de la religion, on l'a toujours dit, et de la laïcité évidemment, on a toujours dit que la relation chez les juifs européens était plus intellectuelle, plus rationnelle, plus dichotomique, et plus traditionnaliste et plus existentielle chez les juifs du Maghreb, ou du Levant. Mais ce qui est intéressant d'un point de vue psychologique, c'est que chez les uns, je parle des ashkénazes, ça donne au comportement et aux attitudes un caractère beaucoup plus homogène, beaucoup plus consonant. Et la laïcité, quand elle existe, elle est plus militante. Elle est héritière des traditions ouvriéristes, des traditions syndicales chez les ashkénazes. Elle est davantage, quand laïcité il y a, elle est faite de détachement, de relâchement, de laxisme. Il n'y a pas de laïcité vraie, autrement dit, chez les séfarades. Pour parler globalement, encore une fois, il ne faut pas me dire, on connaît des gens qui sont comme ceci, comme cela, on parle globalement. La relation à la politique. La relation à la politique, elle est beaucoup plus complexe chez les juifs européens. En ce sens, et j'aimerais bien qu'on dise, si j'ai raison, si vous voulez, en ce sens qu'elle intègre une double expérience qui est très fortement intériorisée. Quelle est cette expérience? D'une part, si vous voulez, je parle des ashkénazes, d'une part une certaine prédilection pour l'ordre politique, générateur de sécurité. Dans l'histoire, les élites ashkénazes ont toujours été au service des systèmes politiques et des États, même autoritaires. Mais en même temps, l'obsession de la mise en cause des régimes iniques, immoraux, ce qui se traduit par un révolutionnarisme, ce qui se traduit par des formes multiples de révolutionnarisme internationaliste, mystique, d'un radicalisme politique. Mais vous allez me dire après, ça se traduit dans nos sociétés à nous par une tendance à une certaine polarisation sur les extrêmes, exclusion faite de l'extrême droite, évidemment. Ça signifie qu'une conscience ashkénaze aiguë correspond à une conscience politique aiguë, soit sur un pôle, soit sur le pôle du maintien de l'ordre politique, soit sur le pôle de la mise à plat du système politique. Alors que l'on trouverait dans le monde séfarade une attitude beaucoup plus tâtonnante, avec un itinéraire qui serait un peu celui-là, passé d'abord par l'ascension sociale et économique, par l'assimilation de la culture ambiante, par des formes d'associationnisme, avant d'accéder à la pensée politique proprement dite. Ce qui se traduit par un rejet des extrêmes, c'est-à-dire par un instinct, disons un positionnement plutôt centriste, entre guillemets, si vous voulez. Ça correspond à des travaux que j'ai fait moi-même, ça. Je suis plus sûr de ça encore que du reste. Le rapport à l'identité. Le rapport à l'identité, il est différent. Chez les uns, je pense aux ashkénazes, il y a une introjection plus forte apparemment des stéréotypes, c'est-à-dire des images de fabrication externe, émanant de ce qu'on appelle nous la out-group, c'est-à-dire le monde environnant, ce qui conduit à des attitudes assez marquées, soit d'intégration sociale, soit de retrait. Alors que chez les séfarades, il y a un univers de référence apparemment plus plein, plus rempli, de composantes culturelles, supposées agissantes, c'est-à-dire juives, judéo-arabo-hispano-méditerranéennes.
Ce qui signifie, ce qui se traduirait par des attitudes de plus grande flexibilité dans le monde séfarade. Flexibilité dans l'utilisation des ressources du milieu, j'entends des ressources symboliques et culturelles du milieu. Le rapport avec les normes en général. Mon sentiment, c'est qu'il y a une normativité plus grande dans le monde ashkénaze que dans le monde séfarade. Ce qui ne veut pas dire formalisme. Ça veut dire un besoin de repère et de comparabilité au groupe extérieur, beaucoup plus grand pour orienter l'action. Alors que chez les séfarades, on trouverait ce qu'on peut appeler, encore une fois un mot barbare, une certaine internalité, c'est-à-dire une référence à ce qui est interne à la communauté pour s'évaluer et pour se définir, avec une attribution plutôt à soi-même des occurrences de succès ou d'échec. Ce sont des tendances, hein, encore une fois. Enfin, conception de la famille. Conception de la famille, je pense notamment au statut féminin et masculin. Il y a une façon qui serait d'opposer les deux, qui consisterait à dire il y a une conception traditionnaliste chez les uns et moderniste.